Louise, de Valmorin. Bonjour à Gérard, bien sûr qu'il est probablement à vos côtés. Et bonjour à Ramon et à Evelyne s'il est avec toi. Donc, on va prier et après ça, on va débuter l'étude pour ce matin. Alors, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes. Tant, Seigneur, pour plonger nos regards dans ta parole et entendre ta voix. Tout au long de cette semaine, Seigneur, nous avons parlé sur le fait de retourner à la maison, sur le fait de se disposer dans nos pensées, dans notre façon d'être, dans nos décisions, quant à un retour vers toi. Et j'ai cette assurance, Seigneur, qu'effectivement, plusieurs, Seigneur, auront pris cette décision de se rapprocher de toi au courant de cette semaine. Alors déjà, Seigneur, nous te remercions pour ces décisions qui ont été prises et celles, Seigneur, qui seront prises suite à l'écoute en différé des différents enseignements de cette semaine. Mais maintenant, Seigneur, bénis-nous, bénis notre entendement, bénis notre compréhension de ce que nous allons partager ce matin. Que ta grâce nous soit accordée, qu'en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, la majesté, la magnificence te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Aujourd'hui, durant toute cette journée, jusque dans l'éternité, nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette bénédiction matinale. Cette semaine, nous avons étudié Luc au chapitre 15 et les versets 18 et 19. Ça faisait la suite, je dirais, logique de l'enseignement qui a été donné dimanche dernier, où on disait à la congrégation de se préparer, un peu à l'instar du Père, du Fils prodigue, se préparer nous aussi à recevoir des gens qui reviendraient ou des gens qui s'approcheraient de Dieu pour une toute première fois. Et durant cette semaine, on a abordé ce même texte, mais qu'avec une orientation différente. Au lieu de le voir à travers le papa, on l'a vu à travers le personnage principal de cette histoire, le fils prodigue lui-même, et particulièrement dans les phrases qu'il va décider de prononcer à l'égard de son père lorsqu'il décide de quitter l'esclavage où il est descendu, l'esclavage où il est maintenant tombé, et de rentrer vers la maison de son paternel. Alors voici ce que la Bible nous dit dans Luc au chapitre 15, le verset 18 et 19. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Sans faire une trop longue révision de ce qui a été vu durant toute cette semaine, lundi, on a parlé de se lever, donc de faire le constat important que nous ne sommes pas debout. Je ne peux pas me lever si je ne constate pas que je suis soit assis, couché, accroupi, ou affaissé au sol, faire le constat que les choses doivent changer. Il n'y a pas de retour à Dieu sans un constat de notre part que les choses doivent changer et une décision de faire en sorte que les choses changent. Et une décision plus importante encore, prendre la décision que la destination où on va se rendre, que l'objectif de notre retour n'est pas ailleurs que la présence même de Dieu. Mardi, on a dit « j'irai vers mon père » et on a vu comme quoi le verbe « aller » voulait dire la seule bonne voie, le seul bon chemin. Et ce chemin-là nous mène à notre Père Céleste et voilà pourquoi il est le seul bon chemin. Il nous ramène vers notre Créateur, vers notre Protecteur, vers notre Concepteur ou notre Penseur et aussi vers notre tout premier supporter. Et on avait vu l'exemple de Jérémie qui se fait dire de la part de Dieu qu'avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, il avait été appelé et établi comme prophète des nations. Et on s'est dit que Dieu avait effectivement un plan pour toi, avait un plan pour moi, des plans très précis. Et que si on passait à côté de ces plans-là et de la raison d'être de notre création et de notre existence, on allait effectivement mener une vie sans intérêt. Et au crépuscule de notre existence, au jour de notre mort, on se poserait encore la question à savoir pourquoi je suis passé ici-bas sur terre. Et c'était aussi un retour vers notre premier amour, celui qui nous a aimés avant que quiconque ne pense à nous et avant même qu'on existe, lui nous aimait déjà. Mercredi, on a vu, j'irai chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Donc, on a vu que le retour à la maison se doit d'être accompagné par la repentance et par une confession. Et la confession, c'est littéralement dire les vraies choses, prononcer de nos lèvres, de notre bouche, l'état réel dans lequel on est réduit. Le terme péché, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Péché voulait dire manquer la cible. Manquer la cible tout d'abord dans le plan, dans la pensée de Dieu et de ce fait s'opposer à la pensée et au plan de Dieu. Mais de surcroît à ça, le terme j'ai péché devant toi ou j'ai péché contre toi veut dire devant ton regard. Et donc, c'est comme si on est, lorsqu'on pêche, on amène Dieu parce qu'il nous regarde constamment, parce qu'il ne peut détourner le regard. Il nous regarde aussi en train de pêcher. Et on parlait de toutes ces occasions où on a forcé le regard de Dieu, le regard juste, le regard pur, le regard saint de Dieu sur des abominations, sur des pratiques qui sont désolantes. Sur des pratiques qui sont tout à fait infectes aux yeux de Dieu, mais on l'a forcé à poser le regard là-dessus parce qu'il avait le regard posé sur nous. Hier, on a vu l'attitude de cœur qui doit accompagner le retour à la maison lorsque le Fils va dire « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils ». On va parler que ça nous prend de l'honnêteté, donc réaliser effectivement que j'étais digne autrefois, que je ne le suis plus, ne pas jouer rouler des mécaniques, se péter les bretelles en croyant qu'on est encore ou qu'on est quelque chose, mais on est réduit en fait à l'état d'esclave. Ce fils prodigue, lorsqu'il a quitté son père, qu'il a dilapidé tout son argent, s'est ramassé dans une situation des plus terribles. Où lui, le fils d'un bien nanti d'Israël, devient l'esclave d'un païen à nourrir des pourceaux qui sont des animaux impropres aux yeux de tout juif. Et donc, il fait un constat, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'étais peut-être digne autrefois, mais je ne le suis plus. Donc, faire preuve d'honnêteté, faire preuve d'humilité. J'ai perdu ma valeur de fils, donc comprendre et être contrit par la perte qu'on a souffert en quittant notre Dieu, en quittant les voies du Seigneur. Comprendre aussi l'effet d'être fils du roi, comprendre que c'est une grâce, comprendre que c'est un privilège, comprendre que c'est une bénédiction et valoriser cet état d'être fils de Dieu. Le fils va dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et ici, il va parler de retourner à la maison et de s'engager par rapport au titre de fils. Être fils, c'est non seulement un statut qu'on reçoit, mais c'est un statut qu'on protège, c'est un statut qu'on préserve, c'est une bénédiction qu'il nous faut, nous aussi. Protégé. Et aujourd'hui, on voit donc cette dernière phrase de cette allocution du Fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Alors, le verbe traiter, pour ceux qui prennent des notes, c'est le verbe poieo en grec, P-O-I-E-O, je répète, P-O-I-E-O. Et traiter veut dire faire devenir ou affecté à un poste. Donc le fils est en train de dire, voilà que je reviens vers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, je ne suis plus digne d'occuper le rang, le poste d'un fils, alors traite-moi, place-moi, fais-moi devenir comme un de tes mercenaires. Poieo ici, c'est le constat que le fils va faire, qu'il se soumet à la volonté de Dieu. En fait, le poieo, c'est le plus bas rang de tous les serviteurs dans une famille ou dans une maisonnée israélite. Il n'y a pas de plus bas, c'est même plus bas que l'esclave, parce que le mercenaire est un journalier. C'est même pas quelqu'un qui est nourri, qui est logé, qui reçoit un salaire. C'est simplement quelqu'un qu'on engage pour de menus travaux et qu'on paye de façon quotidienne et qui le lendemain peut être tout simplement rejeté. Il y a pas un, c'est pas ce qu'on appelle un contrat de travail fixe sur une durée étendue. C'est je t'engage ce matin, puis si dans une heure ça ne me plaît plus de t'avoir, ben je t'exclus. Et ici, le fils, lorsqu'il dit à son père, permets-moi au moins d'être ça, il est en train de dire, je vais me soumettre à toi. Je vais me soumettre totalement à ce que tu voudras de moi. Et lorsqu'on revient à Dieu, il nous faut aussi avoir cette soumission par rapport à lui. Comprenons que lorsqu'on s'est éloigné de lui, on est parti en rébellion parce que le plan de Dieu n'était pas qu'on quitte. Le plan de Dieu était qu'on continue à travailler dans son royaume, qu'on continue à prospérer dans son royaume. Mais pour différentes raisons, à un moment donné, on prend la décision, nous, de s'éloigner de Dieu. Et ce faisant, on fait acte de rébellion. Et si on le pousse même plus loin, si on considère que nous ne sommes plus simplement que des ouvriers agricoles, mais si on parachute dans notre facette de militaire, ben un militaire qui quitte son poste est un déserteur. Je crois que la chose, le seul rang pire qu'un déserteur dans l'armée, ce serait un traître. Et est-ce que le déserteur pourrait être appelé traître dans certaines armées, je pense que on fait facilement l'amalgame des deux. Donc ici, lorsqu'on revient à Dieu, on revient avec cette attitude, je vais me soumettre à ta direction, je vais me soumettre à ta volonté, je vais me soumettre à tes plans, direction, volonté, plan auquel je me suis opposé lorsque j'ai quitté. Donc lorsque je reviens auprès de Dieu, le premier point pour nous aujourd'hui, c'est fais de moi ce que tu voudras. Je me soumets à la volonté de Dieu. Les deux autres termes, le deuxième et troisième terme que j'aimerais utiliser ou traiter ce matin, ce serait comme un de tes mercenaires. Donc comme c'est os, H-O-S, qui veut dire tel, semblable. Un, c'est le terme heis, H-E-I-S, H-E-I-S. Et ici, le terme heis a un sens tout à fait particulier. C'est comme un autre, comme quelqu'un d'autre, comme tout autre mercenaire. Donc ici, le fils n'est pas en train de demander un traitement de faveur. Il demande à être traité tout simplement comme tous les autres. Lui qui avait été un fils, lui qui avait été le fils cadet de cette famille bien nantie, comme je disais tout à l'heure, juive, il a quitté, il a dilapidé tout son héritage, il revient à la maison avec un statut d'esclave qui devrait être affranchi, et il dit à son père, surtout ne me traite pas différemment que tous tes autres mercenaires, que tous tes autres ouvriers. Donc ici, on démontre la simplicité et l'humilité de ce fils repentant. La repentance, si elle est sincère, oui, va faire en sorte que je viens me soumettre au plan et à la volonté de Dieu, mais de surcroît à cela, la repentance est sine qua non, est en parallèle avec un état de cœur qui est simple et qui est humble. Je ne peux pas être repentant si je suis orgueilleux. Je ne peux pas être repentant si je suis imbu de moi-même. La repentance va fonctionner avec la simplicité et avec l'humilité. Troisième point, il va dire, traite-moi comme un de tes serviteurs. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Donc, il est en train de dire au Père, moi, je veux être simplement à ton service. La seule chose qui m'importe en rentrant, c'est d'être à ton service. Donne-moi juste l'occasion de te servir. Lorsque je reviens à Dieu, je ne reviens pas au Club Med. Lorsque je reviens à Dieu, je ne reviens pas à la colonie de vacances. Lorsque je reviens à Dieu, et je pourrais vous parler de mon cas précis, je reviens pour servir. À l'âge de 8 ans, j'ai senti l'appel de Dieu dans ma vie. Un dimanche matin, je me suis levé et puis j'ai été voir mon père et je lui dis, quand je vais être grand, je vais être pasteur. Et sur le coup, mon père ne répond pas. On prend le bus, le métro, on habitait Longueuil à l'époque. Donc on prend le bus, le métro, on arrive à l'église à Montréal et le pasteur Fontalvo vient nous saluer à l'entrée et mon père lui dit, Florent a quelque chose à te dire. Et le pasteur Fontalvo se tourne vers moi et me demande alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je regarde le pasteur et je lui dis, quand je vais être grand, je veux être pasteur. Et de façon instinctive, le pasteur Fontalvo et mon père ont posé leurs mains sur moi et se sont mis à prier une courte prière. Simplement demander à Dieu, Seigneur, que ce désir ne le quitte jamais. J'avais 8 ans. Ce désir-là est resté jusqu'à ce que j'aie 12 ans. Mais à partir de l'âge de 12 ans, quand mon père est rentré dans le ministère, j'ai eu ma période où je me suis rebellé face à Dieu. Mais ma rébellion face à Dieu n'était pas que je n'aimais plus Dieu, n'était pas que je voulais pas l'avoir dans ma vie. La chose que je ne voulais plus, c'est que je ne voulais plus servir Dieu. Alors je me suis éloigné délibérément et je me disais, je vais aller assez loin pour que Dieu oublie cette histoire de se servir de moi, de m'utiliser dans le ministère ou de travailler pour lui, qu'il oublie ça. Je veux juste être monsieur et madame tout le monde qui vient s'asseoir à l'église, qui loue son Dieu, puis ça s'arrête là. Donc de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 16 ans et demi, presque 17 ans, j'ai erré. Je venais à l'église, je faisais ce que je devais faire. À Narbonne, on n'était pas nombreux, donc par moment on était juste quatre, mes parents, ma sœur et moi. Donc je jouais la guitare. Si moi j'avais été absent, ben là il y avait le quart de l'église qui était absente, qui était absent à quelques assemblées. Donc j'étais là tous les dimanches. Je jouais ma guitare, mais sans aucune conviction, sans aucun désir, et surtout sans le moindre désir de servir Dieu. Et à un moment donné, je vous passe les circonstances, mais un samedi particulier, lors d'une convention à Narbonne, Dieu est venu toucher mon cœur. J'ai passé la journée, le matin, l'après-midi, la soirée, la nuit à pleurer. Dieu venait de me toucher. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, je savais que Dieu était venu non seulement me récupérer, moi, pour mon salut, parce que je m'étais éloigné de lui, mais de surcroît à ça, il venait me chercher et c'était clair dans ma tête que c'était pour le servir. Donc lorsque je reviens à Dieu, à l'instar de ce fils prodigue, il ne revient pas vers son père tout simplement pour profiter d'un bed and breakfast, d'un hôtel à la maison. Il revient à la maison pour servir. Donc troisième point, je me satisfais d'être au service de Dieu. Donc le caractère ou le type de caractère qui est démontré ici, c'est un caractère dévoué à la cause et un caractère empreint de serviabilité, vouloir servir. Par la suite, et on rentre dans le mot important d'aujourd'hui, le terme mystios. Mystios, mercenaire, qui n'est pas le terme serviteur ni esclave. Serviteur ou esclave, c'est un synonyme en grec et même en hébreu dans l'Ancien Testament. Ici, mystios, il y a une pensée tout à fait particulière. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui appartient à un maître, c'est quelqu'un qui est engagé journalièrement, donc pour une période de 24 heures ou moins, pour exécuter une tâche. Et quand la tâche est terminée, l'employeur peut le garder et reproduire cette tâche ou reproduire cet emploi-là aussi souvent qu'il veut, ou il peut tout simplement décider d'écarter ce serviteur et de s'en défaire, de s'en débarrasser. Donc ici, le fils, lorsqu'il dit à son père d'être traité comme un mercenaire, comme un journalier, comme quelqu'un qui est engagé à salaire, le terme qui est utilisé en grec, je ne me rappelle pas si je vous l'ai mentionné, mais c'est le terme mystios, mysthios. Je répète, mysthios. Et ici, il est en train de dire, utilise-moi quand tu voudras, si tu le veux. Le si tu le veux est très important. Utilise-moi quand tu voudras, si tu le veux. C'est un peu l'image de cette parabole qu'on a mentionnée il y a quelques dimanches des ouvriers de la première, de la troisième, de la sixième, de la neuvième, de la dernière heure. Donc le maître qui va sur la place du marché, qui engage tout au long de la journée des serviteurs. Et ici, c'est la même pensée qui revient. Cet ouvrier journalier qui dit, si tu me veux, me voici. Prends-moi, utilise-moi quand tu le voudras. Et ça, c'est le cœur d'un serviteur. Ça, c'est le cœur d'un ouvrier Dieu. En disant, Seigneur, je suis simplement disponible pour toi. Utilise-moi quand tu le veux, si tu le veux. Mais c'est aussi, utilise-moi aussi longtemps que tu voudras, si tu le veux encore. Parce que ce journalier-là commençait la journée, mais dans une demi-heure, le maître pouvait réviser ses plans, puis dire, regarde, j'ai plus besoin de toi, va-t'en et je te paye au prorata. Tu as travaillé une demi-heure, je devais te payer un denier pour 12 heures de travail, mais comme tu as travaillé une demi-heure, je vais te donner un 24e du salaire qui était supposé te revenir pour tout aujourd'hui. Et le journalier va se contenter de ce 1 24e de salaire pour cette demi-heure de travail. Donc ici, le fils s'approche du père et lui dit, regarde, je suis prêt à te servir et je suis prêt à te servir aussi longtemps que tu voudras ou aussi peu que tu le voudras. Encore là, le cœur d'un serviteur. Ce journalier n'est pas un spécialisé non plus, n'est pas un spécialiste d'une œuvre particulière. Je me rappelle à travers les années, il y a des gens parfois qui viennent me voir en disant Pasteur, je veux servir dans l'église, mais surtout, je veux pas faire ceci, cela, ceci et cela. Je me rappelle d'un cas en particulier où la personne me dit Oui, pasteur, maintenant, je sens que je dois servir Dieu, je dois travailler pour Dieu, mais je veux pas entendre parler de travailler à l'école du dimanche avec les enfants ou de travailler parmi la jeunesse. Là, il est temps que je passe à des choses sérieuses. Vous comprenez que j'ai pas pu répondre favorablement à une telle requête. Je pense pas que Dieu approuvait une telle requête non plus. Celui qui a envie de servir, celui qui a le désir de servir, celui qui revient à la maison avec l'attitude de cœur adéquate, dit je vais servir là où tu voudras. Si aujourd'hui tu veux que j'arrache des mauvaises herbes, je vais arracher des mauvaises herbes. Si demain tu veux que je bêche le jardin, ben je vais retourner toute la terre du jardin puis je vais le faire. Si le jour d'après tu veux que je monte dans le pommier pour cueillir des pommes, ben c'est ce que je ferai. Si le jour d'après tu veux que je démolisse une barrière pour reconstruire une autre barrière, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Celui qui a le désir de servir, c'est Seigneur, là où tu voudras, je vais servir. Le pasteur André, je sais qu'il a eu une prière à un moment donné particulière avec Dieu et je pense que dernièrement, lorsqu'il étudiait le livre d'Ézéchiel, il me disait, il a retrouvé un peu cette même prière qui était mentionnée dans les Écritures et il lui disait à Dieu, Seigneur, tout ce que tu mettras entre mes mains à faire, je le ferai. Et je pense que c'est l'attitude qu'on devrait avoir lorsqu'on sert Dieu. Seigneur, tout ce que tu me permets de faire, je vais le faire. Tout ce que tu mets entre mes mains comme occasion de servir, je vais sauter dessus et je vais le faire parce que la seule chose qui compte pour moi, c'est de te servir. Donc, je vais te servir quand tu voudras, je vais servir aussi longtemps que tu voudras, je vais servir là où tu voudras, si tu le veux, bien sûr. Et En fin de compte, le journalier est aussi en train de dire à son employeur et ce fils, à son père, ben Seigneur, le salaire que tu voudras me donner, ce sera celui que tu me donneras. Il n'est pas en train de faire entrer un syndicat, puis son supérieur syndical, son représentant syndical pour dire voilà la norme qui doit être appliquée pour ci, pour cela. Et ça se voit très bien dans la parabole des ouvriers des différentes heures. Le maître a décidé de donner le salaire comme il avait envie de le donner. Logiquement, un denier était simplement pour ceux qui avaient été engagés toute la journée. Mais le maître a décidé que moi, j'engage quelqu'un à la dernière heure, à l'avant-dernière heure. Ben, il travaille 1 heure, mais il reçoit quand même un denier, peu importe. Ça a frustré ceux de la première heure parce que il disait c'est pas logique. Mais Dieu dit, mais je t'ai traité comme je devais te traiter, le salaire normal. Et d'un denier pour une journée, mais si j'ai envie de faire ce que je veux avec mon argent, je le fais. Qui t'es-toi pour me dire combien je dois donner? Et ici, ce fils qui retourne à la maison est en train de dire à Dieu, regarde les récompenses que tu voudras me donner, ça sera celle que tu voudras. Moi, la seule chose qui compte, c'est d'être appelé un de tes serviteurs. Alors, retourner à la maison, ça implique quoi? Ça implique de la soumission à Dieu. Retourner à la maison, ça implique de l'humilité. Ça prend une dose d'humilité pour revenir en disant, j'ai fait l'erreur, je me suis trompé, j'ai mal agi, je vais me soumettre à toi. Retourner à la maison, tu reviens à la maison avec un cœur pour servir Dieu, avec ce désir de, regarde Seigneur, je vais faire ce que tu voudras que je fasse. Donc tu reviens avec un cœur de serviteur. Je ferai ce que tu voudras que je fasse. Je le ferai aussi longtemps que tu voudras que je le fasse. Tu m'utiliseras exactement là où tu voudras. Tu pourras me parachuter d'une tâche à l'autre si tu as envie. La seule chose qui compte pour moi, c'est te servir. Et Seigneur, je sais que tu es un bon maître. Et je sais que tu récompenses justement. Et moi, la seule chose qui compte, c'est pas nécessairement le salaire, c'est simplement te servir. Alors j'ai pris que ces enseignements cette semaine aient été profitables pour vous tous. On va prier et après ça on va répéter les informations pour le week-end. Seigneur, aujourd'hui, dans cette conclusion du retour à la maison, tu nous rappelles pourquoi on rentre à la maison. Tu nous as sauvés pour servir. Et si nous rentrons à la maison, Seigneur, c'est parce que nous avons aussi compris que nous sommes sauvés pour servir. Et nous acceptons, Seigneur, de te servir là où tu voudras, le temps que tu voudras, aux occasions que tu jugeras appropriées. Et nous savons, Seigneur, que tu prendras soin de nous. Mais la seule chose qui compte pour nous, c'est simplement, Seigneur, de te servir. De te servir bien et de te servir fidèlement. Parce qu'au jour de notre rencontre face à face avec toi, la seule phrase qu'on veut entendre, c'est bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pour être appelé bon, il faut avoir bien travaillé. Pour être appelé fidèle, il faut avoir eu de la pérennité, de la constance, de l'ardeur au travail. Alors je prie Seigneur pour moi-même, mais aussi pour tous nos amis qui nous écoutent actuellement, pour mes frères et mes sœurs, pour ceux qui sont dans ce processus de s'approcher de toi ou de retourner à la maison, que nous puissions Seigneur être habités par cette pensée de te servir. À l'instar Seigneur de notre bien-aimé le pasteur André, que nous puissions effectivement avoir cette même prière. Tout ce que tu mettras, Seigneur, entre mes mains pour accomplir, je le ferai, Seigneur. Parce que la seule chose qui compte, c'est te servir. Toi et simplement toi. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, fortifie-les, encourage-les. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors les annonces pour cette semaine, pour ce week-end. Donc, programme triple pour le pasteur. Aujourd'hui, après la bénédiction matinale, ce soir, on a notre rendez-vous à 19h. M'excuse, à 19h, de 19h à 20h, prière et intercession. Donc, comme d'habitude, première partie sera une prière suite aux enseignements de dimanche et de cette semaine. Et dans la deuxième partie, on aura recueilli vos prières, vos requêtes et vos besoins. Et on les présentera devant le Seigneur. On va essayer de terminer très, très proche de 20h, parce que de 20h à 21h, pour les jeunes gens, je serai avec eux sur la plateforme Zoom pour m'entretenir avec les jeunes. Ça va être ma deuxième occasion dans cette période de confinement. La première a été enrichissante et puis on renouvelle l'expérience encore ce soir. Donc à partir de 20h ce soir, donc je serai sur la plateforme Zoom avec les jeunes. Week-end, donc bien sûr dimanche, assemblée en ligne pour vous tous à partir de 10h heure de Montréal. Comme vous savez, les portes de l'Église ont le droit de réouvrir devant un public réduit. Donc, on a donné l'occasion à tous et chacun de s'inscrire pour réserver une place. Les réservations sont maintenant terminées. Je le disais en début de séance, la sœur Patricia va appeler tous et chacun qui s'est inscrit, plus d'autres personnes qui cadrent dans les deux critères importants qu'on avait fixés. Donc, être célibataire et âgé de plus de 55 ans ou être marié et avoir au moins un des deux membres du couple qui a au-dessus de 65 ans. Donc on veut honorer nos aînés nos personnes seules durant personnes seules et aînées durant ce premier week-end. On pense que c'est les deux groupes particulièrement qui ont peut-être souffert le plus du confinement, donc on voulait les honorer. Et comme on est obligé d'être moins de 50, incluant l'équipe technique, donc on devrait se ramasser à une quinzaine ou une vingtaine de personnes à l'équipe technique pour bonifier les assemblées. Donc on avait juste une trentaine de places de disponibles pour l'assemblée de dimanche. Donc tout à l'heure, dans quelques minutes, probablement la sœur Patricia commencera à vous contacter pour confirmer votre présence. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, l'assemblée va être diffusée comme d'habitude, habitude comme depuis 2 mois, sur toutes les plateformes Internet de l'Église. Donc YouTube, Facebook, Zoom, page web de l'Église, nous serons là avec une assemblée revampée, une assemblée bonifiée, avec différentes surprises pour vous ce dimanche. On espère que vous serez là. Pour ceux qui vont venir, on rappelle les directives. Le port du masque va être obligatoire pour toute personne qui rentre dans le building. Les seules occasions où le port de masque va être exclu, c'est lorsqu'on officie sur la tribune. Donc la personne qui dirige les chants, les musiciens, la personne qui prêche ou qui traduit, qui fait les annonces, ces gens-là qui sont sur la tribune n'auront pas à porter le masque, mais dès qu'ils descendent pour s'asseoir dans la salle, ben là, à ce moment, le port du masque redevient obligatoire. En rentrant, il y aura des normes de lavage de mains. Donc, probablement pour cette première, je m'excuse, première édition, ce sera avec du gel à main. Vous connaissez les marques habituelles, on vous en pourvoira. Donc, lavage des mains. Et après ça, dans la salle, il y aura des places qui vous seront attitrées. Vous serez conduit jusqu'à une place et on vous demande de ne pas vous promener d'une place à l'autre parce que si vous vous promenez d'une place à l'autre et que malencontreusement vous auriez un virus ou quoi que ce soit, ben vous seriez en train de contaminer une place, une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc, la place que vous allez avoir au début de l'assemblée reste la même pour l'ensemble de l'assemblée. Donc, quelles sont les normes? Port du masque, vous amenez votre masque avec vous et vous le portez dès que vous rentrez dans le building. Lavage de mains. On évite les déplacements dans l'église. Bien sûr, vous avez besoin d'aller au petit coin, ça sera accessible, mais sinon, on tient notre place. Et pour les couples, il y en a quelques-uns, pour les couples, sachez que vous ne pourrez pas vous asseoir côte à côte. On a distancé malgré tout les chaises, tout simplement pour une facilité de disposition. On a distancé toutes les chaises de 2 mètres. Donc, monsieur et madame seront, pour une toute seule fois ou une seule occasion, distancés d'environ 2 mètres. Donc, on vous attend. Je rappelle les rendez-vous. Donc, ce soir, 19 h, prière et intercession. 20 h, les jeunes gens, les adolescents, les jeunes, je suis avec vous sur la plateforme Zoom. Par la suite, dimanche matin, pour tous ceux qui sont à la maison, ça ne change rien. Vous êtes là à 10 h, nous débutons le culte et on célèbre Dieu ensemble avec une assemblée qui est bonifiée. Vous allez avoir d'agréables et de belles surprises. Et par la suite, vous aurez, pour ceux qui viennent aussi, qui ont déjà inscrit, qui recevront tout à l'heure l'appel de la sœur Patricia. Donc, masque obligatoire, vous l'amenez avec vous, lavage de main obligatoire, et c'est un siège qui est attitré, que vous occuperez pendant toute l'assemblée, et évitez donc tout ce qui est serrage de main, embrassade. On maintient la distanciation durant tout le temps à l'église de 2 mètres, et on évite de se promener dans le building, hormis pour aller au petit coin, si c'est effectivement nécessaire. Donc sur ce, on vous souhaite une belle journée avec du soleil, un temps qui est agréable, que Dieu vous bénisse, et puis on se retrouve ce soir, 19 h, pour la prière et l'intercession. Bonjour à tous, ou au revoir à tous plutôt. Bye bye.